Ce message vous est proposé gratuitement. Gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va s'asseoir dans la présence de Dieu, reprendre nos Bibles dans le livre de Job, notre ami Job. Amen. On va refaire une lecture, un survol donc du livre de Job au chapitre 1 à partir du verset à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit donc qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 5 000 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Amen. Déjà, vous voyez, chaque personnage dont on parle dans la Bible est un personnage clé, un personnage important. Amen. Soit par les bonnes choses qu'il a faites, soit par les mauvaises choses par lesquelles il s'est illustré. Quoi qu'il en soit, on apprend toujours d'un personnage biblique. On apprend ce qu'il a fait de bien et qu'il faut reproduire. Et on apprend aussi ce qu'il a fait de mal et qu'il faut éviter. Amen. C'est Dieu lui-même personnellement qui a supervisé, je le crois, et la compilation de la Bible. Amen. Il a insisté, il a tenu, il a voulu que le livre de Job soit dans la Bible. Amen. C'est pour pouvoir donc nous transmettre des informations et pour pouvoir nous transmettre aussi des enseignements. Amen. Et il suffit de voir la manière dont le livre commence. Le livre commence déjà par nous situer l'endroit où Job vivait, son nom. Et après, la Bible nous parle de son caractère. Il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ensuite, la Bible nous dit qu'il était un homme fécond. Donc, il était un homme accompli. Il avait 7 fils. C'est une grâce, amen, d'avoir 7 fils. Et la Bible nous dit également qu'il avait 3 filles. Ça également, c'est une grâce, amen. Donc, c'est un homme comblé. Il était intègre, droit. Il avait des enfants. Et il avait des activités. Il était bien intégré dans la ville dans laquelle il était. Et la Bible nous fait maintenant le palmarès de ce qu'il possédait, amen. Donc, comment un homme se définit? Un homme se définit. Il suffit de relire le texte. Amen. Par d'abord, un, il habite dans un endroit géographique bien déterminé. Amen. Il faut qu'il ait l'ascendant sur cet endroit-là. C'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit l'endroit qui l'avale, mais il faut que ce soit lui, en fait, qui arrive par la dimension spirituelle qu'il a atteint à influencer et à impacter cet endroit. Amen. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Ensuite, la Bible nous montre également que la deuxième chose vraiment qu'on voit, qu'on regarde, c'est en dehors du nom, parce que le nom aussi est important, amen, c'est l'intégrité, la droiture, hein, la crainte de Dieu. Ça, c'est un aspect de son caractère qui est très significatif, c'est que lui-même, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Amen. Il y a des personnes... S'ils arrivent à atteindre les objectifs qui se sont fixés, tout de suite, ils vont se dire, bon, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés, j'ai plus besoin maintenant de craindre Dieu. Ok? Mais c'est pas le cas. On ne craint pas Dieu pour avoir quelque chose. On craint Dieu parce que ça fait partie de notre caractère. Amen. Et quand bien même on doit être perdant dans une situation, mieux vaut perdre en gardant la crainte de Dieu que de gagner en se compromettant. Amen. C'est ce que Dieu a aimé lorsque le roi de Sodome a dit à Abraham, « Abraham, garde les richesses pour toi, donne-moi les hommes. » Abraham a dit, « Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, parce que il ne faudrait pas que tu dises que c'est moi qui enrichis Abraham. » Abraham était un homme droit, il était un homme intègre, il avait la crainte de Dieu. Amen. Donc, il faut que ce caractère, il faut que cet aspect nous caractérise. Amen. Des gens, des personnes intègres, droites et qui craignent Dieu. Ensuite, donc, la Bible parle également du fait que nous sommes appelés à nous multiplier. Amen. Vraiment, il est bon pour des enfants de Dieu d'avoir des enfants. Amen. Pas d'avoir des enfants pour avoir des enfants. Le but de Dieu derrière la fécondité des enfants de Dieu, c'est la capacité de pouvoir se multiplier, c'est-à-dire de pouvoir donner la chance ou de pouvoir faire la grâce à des enfants de pouvoir naître dans un foyer équilibré, dans un foyer où il y a la crainte de Dieu, amen, de pouvoir évoluer dans un environnement où véritablement l'exemple est un homme de Dieu, amen. Parce que même si aujourd'hui on veut sembler l'ignorer, en permettant aux homosexuels de pouvoir adopter des enfants, le cadre familial est très important. La plupart des tueurs en série, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été maltraités par leur père ou bien par leur mère. Ce sont des personnes qui sont issues de foyers déséquilibrés. Et ça leur laisse une trace vraiment terrible, indélébile, qu'on ne peut même pas effacer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait 5 ans, son père l'a abandonné, il est parti. Pourquoi? Parce que sa mère le frappait. Pourquoi? Parce que ses parents ont divorcé. Ça laisse des traces. Donc, à plus forte raison de présenter à un enfant qui grandit un couple qui n'est pas naturel. Voilà. Hein? On peut aller en prison pour ça. On ne sait pas qui est derrière Internet, mais il faut dire, appeler blanc ce qui est blanc, noir ce qui est noir. C'est un couple qui n'est pas naturel. C'est pas dans l'ordre naturel des choses. Parce que si ça l'était, ils allaient être capables de pouvoir faire des enfants d'eux-mêmes. Ok, donc la nature a voulu qu'ils ne soient pas capables d'eux-mêmes de faire des enfants. Donc ça les disqualifie automatiquement de pouvoir élever des enfants. Parce que c'est déjà difficile en tant que chrétien d'élever des enfants dans le Seigneur. À plus forte raison, quand on ne l'est pas, quand on n'a pas la crainte de Dieu et quand on a des problèmes. Ok, donc... Dieu est pour qu'on se marie. Il est pour qu'on fasse des enfants. Mais pas à tous les prix aussi. Amen. Il faut maintenir sa famille dans le Seigneur. Et ça a été ça le problème de Job. Job n'a pas, c'est vrai qu'il a fait ce qui était, il a fait ce qui pouvait lui le maintenir dans les bonnes grâces. Mais il n'a pas fait ce qui pouvait maintenir sa famille entièrement dans les bonnes grâces. Raison pour laquelle sa famille s'est désintégrée dès la première attaque de l'ennemi. Dès la première attaque que Dieu a permis, la famille s'est désintégrée. Tu vois. Le Seigneur a dit, il y a une chanson qu'on chante bien et puis je pense que, en fait, ça fait partie de la parole de Dieu. Il dit, j'ai bâti sur le rocher. Hein? Le vent et la tempête souffleront, ma maison résistera. Pourquoi? Parce que ma maison est en Jésus. Celui qui a bâti sur le sable, le vent et la tempête souffleront et la maison va se désintégrer. Et effectivement, il a suffi simplement que Dieu permette à l'ennemi d'attaquer, d'éprouver la famille de Job pour que celle-ci se désintègre. Vous savez ce que la femme de Job lui a dit? Face à face, maudit Dieu et meurt. Ça prouve que cette femme-là, malgré le fait même qu'elle était avec Job et qu'elle allait au culte avec Job et qu'elle lisait même la Bible avec Job et qu'elle priait elle-même, elle n'avait pas la crainte de Dieu. Sinon, elle pouvait pas lui dire maudit Dieu et meurt. Donc, en réalité, lui, il était intègre. Mais tout ce qui était autour de lui ne l'était pas. Vous comprenez? Mais la Bible insiste, hein, sur donc les enfants, 7 fils, 3 filles. Ça fait partie aussi, de ce qu'on peut voir d'un homme, effectivement, qui prouve que, bon, cet homme-là, il est en train d'accomplir ce que le Seigneur attend de lui, puisqu'il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Amen. Amen. Vous savez, moi, je dis souvent, c'est une responsabilité pour nous. Pourquoi? Il y a tellement de gens dérangés qui ont des enfants et qui ne font qu'élever des enfants qui, à leur tour, seront dérangés. Si on ne leur apporte pas la parole de Dieu, si on ne les rachète pas, si on ne leur parle pas de Jésus, si le sang de Jésus ne les lave pas. Amen. Pour que nous aussi, nous avons donc cette responsabilité. Mais il ne faut pas se forcer à faire des enfants rien que pour faire des enfants aussi. Amen. Il faut le faire dans le plan de Dieu, attendre le temps de Dieu aussi. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas accepter de se mettre sous la pression de l'Église. Parce que des fois, on nous met la pression, faut te marier, faut te marier. Et vous savez, il n'y a rien de plus dévastateur que de faire un mauvais mariage quand on est enfant de Dieu. C'est vraiment très, très, très important. Aujourd'hui, le taux de divorce dans l'Église est aussi élevé que le taux de divorce dans le monde. C'est révélateur d'un fait. C'est qu'on ne prend pas le temps d'attendre le temps de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et il y a un temps pour chaque personne. Le temps de Nathalie n'est pas le temps de Simone. Amen. Si Joséphine s'est mariée à 24 ans ou à 20 ans, ça ne veut pas dire que toutes les filles doivent se marier à 20 ans ou à 24 ans. Vous comprenez? Il y a un temps pour chaque personne. Mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. En son temps. Et vouloir précipiter le temps nous amène à tomber dans les séductions. Donc, il possède maintenant, on parle maintenant de ce qu'il possède. Mais pourquoi la Bible fait l'état de ce qu'il possède? Parce que ce qu'un homme possède aussi est important. Parce que ça vous donne l'étendue de ses capacités. Amen. De ses capacités. Parce que il aurait pu avoir, les choses sont différentes. On vous dit qu'il a 7 fils et 3 filles. Mais s'il n'a que 7 brebis, 3 chameaux et 5 pères, tu t'imagines que ça doit être difficile dans la famille de pouvoir la nourrir. Mais par rapport au nombre d'enfants qu'il a, on te dit il a 7000 brebis. Ça veut dire que il peut même avoir 1000 brebis par fils. C'est pas un problème. Ça te montre que Job était dans un état d'aisance, était dans un état de bénédiction. Et c'est également la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on soit béni. Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu veut qu'on ait plus qu'assez. Amen. Il dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons dans l'abondance. Et la Bible parle de Dieu qui est capable de nous bénir en toutes choses, de telle sorte que en toutes choses nous ayons de quoi satisfaire à tous nos besoins et que nous en ayons encore davantage pour toute bonne œuvre. Donc, pour faire des bonnes œuvres, il faut en avoir assez pour soi. Amen. D'abord, quelqu'un qui n'est pas rassasié lui-même, il ne peut pas aider d'autres personnes à manger. C'est pas possible. Si vous lui donnez de la nourriture, vous dites va distribuer, il va prendre ça, il va envoyer chez lui à la maison. Parce que il n'a pas assez pour lui-même. Donc c'est ça aussi, ça nous montre la volonté de Dieu pour nous. Amen. Que nous soyons prospères. Que nous soyons prospères, que nous choisissions la bénédiction. C'est Job qui a dit à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions, si tu es résolu de prospérer, d'être béni, tu le seras. Tu le seras. Il y a des personnes qui estiment que ce n'est pas important, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de ça. Mais Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction afin que tu vives toi et les tiens. Je te conseille de choisir la bénédiction. C'est-à-dire que si même si tu ne choisis pas la bénédiction pour toi-même, mais choisis-la au moins pour ta progéniture. Que tes enfants n'aient pas besoin d'aller mendier. En Afrique, c'est pire. Il y a des parents qui envoient leurs enfants à la prostitution. Hommes comme femmes. Arrivé à un certain âge là, on dit, mais toi là, tu fais quoi encore ici? Tu vois pas tes camarades, elles amènent l'argent à la maison, toi tu es là, tu es en train de te... Va chercher l'argent. Elle va aller chercher l'argent comment? À 14 ans, à 15 ans, 16 ans, elle va aller chercher l'argent comment? Donc on livre l'enfant à la prostitution. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être béni. Si tu es béni, ton enfant n'a pas besoin de se prostituer. Tu comprends? Donc c'est une responsabilité, c'est un échec pour des parents de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et la Bible dit clairement, la Bible dit que le juste a pour héritier les enfants de ses enfants. C'est une responsabilité. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est semblable à quelqu'un ayant renié la foi. Ça veut dire que comme si tu n'amènes pas à manger, tu n'arrives pas à satisfaire aux besoins de ta famille, c'est comme si tu ne croyais plus en Dieu. My God, c'est fort. Bien, tu ne crois pas que ce verset-là existe? On n'est pas encore dessus, ça vient, mais le verset dit clairement que celui qui n'a pas soin des siens, ça veut dire celui qui ne s'occupe pas des siens, est semblable à quelqu'un ayant renié la foi. Les siens, c'est tes enfants. Non, un chrétien, on n'a pas besoin de te poursuivre pour que tu emmènes la comment on appelle ça? Si tu as des enfants avec une femme, la pension alimentaire. C'est un devoir, c'est aussi important que la dîme. Tu peux pas ne pas envoyer la pension à tes enfants et puis apporter la dîme. Mais la dîme que tu envoies, Dieu ne considère pas ça parce que tes enfants, la chair de ta chair, ce que tu as procréé, tu dois subvenir à leurs besoins. Ça, c'est des choses, c'est la Bible, c'est la parole. Dieu a prévu, il a tout prévu. Amen. C'est important de prendre soin des nôtres. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes une référence. Nous sommes un exemple. Quel évangile tu vas enseigner à un enfant qui a un parent chrétien qui refuse de s'occuper de lui? Comprends? Donc on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants direct parce que on est nous sommes le premier contact qu'ils ont avec Dieu en fait. Surtout le père, c'est le premier contact. Généralement, le père est c'est lui qui reflète. Parce que l'enfant lui ne voit pas Dieu, il voit Dieu à travers son père. La crainte qu'il a de Dieu, la manière de se comporter, son intégrité, sa manière d'être et tout ça. Donc si le père vraiment s'occupe bien de ses enfants, il va dire, ah, Dieu est bon. Si le père s'occupe mal de ses enfants, il va dire, mais Dieu est méchant, il est mauvais. Simplement. Donc Dieu te tient pour responsable. Et tu ne peux pas prétendre être béni si cet aspect-là n'est pas réglé. Certainement, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Moi, je ne suis pas au courant de vos dossiers. Amen. Mais le Seigneur a insisté pour que je parle de ça. Tu ne t'occupes pas des tiens, tu as renié la foi. Tout ce que tu fais, prière au jeûne, 40 jours, 50 jours, jeûne à eau, jeûne sec, jeûne d'Esther, jeûne de Barthélemy, jeûne de Nazar, de Lazare, jeûne même de Joël ou bien de Joseph. Tu as inventé toutes sortes de jeûnes même. Tu as sorti les jeûnes où on jeûne de 16h à 17h. Hein? Ah, il y a des gens qui font leur jeûne, de 16 à 17h. Ou bien le jeûne où on prend pas le petit déjeuner. Lui, il a jeûné comme ça. Mais tu as fait tout ce que tu veux. Amen. Mais ce sont des choses qui sont importantes. Ce sont des choses que Dieu regarde. Tu as renié la foi. Tu as renié la foi. Parce que tu dois prendre soin des tiens. Amen. Tu dois prendre soin des tiens. La Bible dit donc, en parlant de Job encore, vraiment, je vais prier aujourd'hui. Pas que je commence à parler parce que bon donc je viens on commence à prier en même temps non ça dit j'aime trop enseigner ça dit enseigner là c'est pour moi c'est primordial quoi je me dis en France là on a besoin d'enseignement amen. C'est l'enseignement qui ouvre les yeux. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce qu'il ne prie pas, hein. Parce qu'il lui... Ah. Mon frère, quand quelqu'un est dépositaire de la connaissance, ses prières sont plus efficaces. Quand il prie, il ne prie pas comme quelqu'un qui bat de l'air. Parce qu'il y a des gens qui battent de l'air, ils savent pas. Tu entends la personne, elle prie, elle répète 18 fois la même chose. Seigneur, tu es glorifié. Seigneur, tu es glorifié. Seigneur, tu es glorifié. Qu'est-ce que ça change à la gloire de Dieu? Rien. Le fait que tu dis tu es glorifié, c'est simplement pour meubler le temps. Seigneur, tu es béni. Seigneur, tu es béni. Seigneur, tu es béni. Seigneur, tu es béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il peut faire une heure de prière, il n'a rien dit. Du début jusqu'à la fin, il n'a pas évolué, il n'a fait que faire du bruit seulement. Et ça excite la chair, parce que on transpire, on tremble un peu, et puis les autres aussi. Eh ben, ça donne quoi? Rien. Par contre, quand tu as la connaissance des principes de Dieu, ta prière, elle est ciblée. Chaque parole qui sort de ta bouche, elle frappe un objectif. C'est rapide. Tu peux même en 5 minutes décoter une situation, alors que tu peux faire 2 heures de prière, bien transpirer, et puis à zéro. Comme le frère Gervais le dit. Amen. Donc, il est important souvent de s'asseoir et puis d'essayer d'analyser pour comprendre ce qui ne va pas. Ok? Donc, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc Dieu, le Seigneur, a bien noté la manière dont Job se comportait et la manière dont il avait coutume de se comporter. Amen. Et ça a eu des répercussions sur sa vie. Cet acte-là, ce qu'il a fait. Parce que constamment, en accomplissant cet acte, en sanctifiant ses enfants, en faisant des holocaustes, en criant à Dieu, en demandant pardon pour leurs péchés, qu'est-ce qui se passait? Il a attiré la main de Dieu sur sa vie. Il a permis que le Seigneur le protège et le garde. Satan lui-même n'a pas manqué d'en faire la remarque. Car la Bible dit au verset 6, « Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « Mais d'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc vous voyez que vous pouvez être connu de Dieu. Dis amen. Tu peux être connu de Dieu. Dieu peut te connaître de nom et connaître ton adresse exacte. Savoir où tu habites, surveiller ta vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'es pas dans l'anonymat, là. Tu n'es pas dans le vent. Tu es une personne spéciale. Pourquoi? Parce que Dieu, il scrute la terre. Et quand il regarde la terre, il dit, mais moi, je regarde en Orient, je ne vois personne comme Job. Il dit, mais Satan, tu allais te promener sur la terre. C'est sûr que tu as vu mon serviteur Job. Parce que sur la terre, il n'y a personne comme lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aussi il pèse. Une fois, il y a un roi qui allait utiliser les ustensiles du temple pour pouvoir faire une fête. Il y a un doigt qui est sorti, qui est écrit sur le mur. Pesé, pesé, trouvé léger. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, Dieu t'a pesé. Et il t'a trouvé léger. Donc, là où tu es là, c'est ta dernière soirée aujourd'hui. Demain matin, on va faire tes funérailles. Donc, chacun d'entre nous, on a un poids spirituel. Alléluia. On a un poids spirituel. On s'amuse. C'est pas de l'amusement. Paul dit, il dit que quand on court là, dans l'évangile, ne courez pas comme si vous faites un footing ou un jogging. Il dit, courez comme s'il y avait une course et que vous vouliez remporter le prix. Il dit, c'est comme ça que je cours. Parce que je suis en compétition avec d'autres personnes. Peser, on t'a pesé, on t'a trouvé léger. Job, il était un homme lourd. Quand Dieu le regarde, Dieu dit vraiment, il n'est pas peut-être le meilleur homme de tous les temps, mais de son époque et de sa région, il était le meilleur. Parce que Dieu a pesé tout ce qui était autour de lui et il a trouvé que le plus excellent, c'était Job. Alléluia. Donc, bats-toi pour faire partie des plus excellents. Et des plus excellentes. Amen. Il faut que tu t'illustres. C'est Paul qui a dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On a des témoins. Les témoins, c'est qui? C'est David. Les témoins, c'est qui? C'est Esther. Les témoins, c'est qui? C'est Job lui-même. Ce sont des témoins. Qu'est-ce que tu vas dire devant eux? Non, Seigneur, vraiment, j'ai été trop éprouvé, c'était trop dur, je ne pouvais pas. Job dit, mais toi, tu dis quoi? Quand tu vas voir Job, tu vas te taire parce que... Tu vas dire, non, vraiment, le combat était trop dur. Fallait que je capitule parce que je ne pouvais pas. Quand tu vois, et puis tu vois David qui est là, qui te regarde, tu dis, quand tu vois David, tu dis, David l'a fait, qui je connais, moi j'ai dit quoi? Tu comprends? Celle-là, c'est des témoins. Abraham, il était chez lui tranquille. Dieu lui dit, sors de ta maison, sors de ta patrie, va où je te dis. Et il a suivi Dieu. Dieu m'a dit, mais quand je t'ai dit de faire ceci ou je t'ai dit de faire cela, pourquoi tu n'as pas fait? Tu m'as dit, non, vraiment, je ne pourrais pas laisser ma famille, je suis trop attaché. Et tu regardes Abraham te regarde comme ça. Tu dis, Voilà les témoins. tout cela, c'est des témoins. Quand, ne regarde pas toi ta vie, regarde les choses qu'ils ont accomplies. Amen. Et encore, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en permanence sur eux, sur leur vie. Et eux, ils étaient dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Dispensation, l'Ancienne Alliance. Nous, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous devons même accomplir encore plus. Nous devons faire encore des choses plus grandes. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. La Bible dit donc, l'Éternel dit à Satan, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il faudrait qu'un jour Dieu dise ça de toi, tu vois. Alléluia. Oh, est-ce que tu as vu ma soeur, ma fille? Il n'y a personne comme elle sur la terre. Non, vraiment, c'est. Il n'y a personne comme elle en France. Il n'y a personne comme elle au Congo. Amen. Il n'y a personne comme elle en Guadeloupe. C'est-à-dire que quand tu arrives même, les anges, il y a tout un dispositif de sécurité qui se met en place. Les anges même, le ciel même en branle-bas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, la sœur doit aller aux Antilles. Elle doit aller en Guadeloupe. Donc, il faut l'escorte. Il faut les chars de feu. Il faut les anges. Pourquoi? Parce que quelqu'un se déplace. Oh my God, my God, my God, my God. Quand tu arrives sur l'île même, dès que tu poses les pieds, la Bible dit que tout lieu que foulera tes pieds te le donne comme héritage. Dans le monde spirituel, il y a un déblocage en même temps. Alléluia, my God. On sent que un enfant de Dieu a mis les pieds dans la nation. Pourquoi? Parce que tu as été pesé, et que tu as été trouvé lourde. Tu as été trouvé solide. Alléluia. Alléluia. Tu as été trouvé lourd. Ben, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens, les mouches même pèsent plus que spirituellement. C'est pas bien. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est pas parce qu'il a un intérêt quelconque? Satan, il connaît. C'est-à-dire, il connaît la nature de l'homme. L'homme, à 99%, il est fourbe. C'est Dieu lui-même qui a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Lui-même, Dieu, il a choisi de ne pas comprendre, de ne pas, si tu veux, violer l'intimité du cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il donne à l'homme le libre arbitre, le libre choix, la capacité de choisir, la capacité de décider. Mais avant que tu décides, Dieu ne connaît pas ta réponse. Moïse aurait pu refuser, hein. D'aller devant Pharaon, il a même essayé. Dieu a discuté avec lui. Dieu a essayé de le convaincre aussi. Il a apporté ses arguments. Tu vois? Et il dit, mais est-ce de manière désintéressée? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut jeter le doute. Il dit, mais en réalité, si Job, il agit de la sorte, c'est parce que tu l'as trop béni. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Donc, en réalité, Satan se plaint d'une chose. Il se plaignait du fait que Job était sous protection. Comment il fait pour savoir que Job est sous protection? Parce qu'il a essayé d'attaquer Job. Amen. S'il n'avait pas essayé de l'attaquer, il n'avait pas savoir qu'il est sous protection. Si par exemple un démon vient pointer chez toi, dès qu'il met la tête dans la maison et puis reçoit une gifle, il sort, il va dire là-bas là, c'est chaud. Il va aller faire le rapport. Il va dire ah mais Satan, il va dire mais depuis je t'ai envoyé sur le cas de tête, tu n'as pas encore pu le régler. Il dit non, ça passe pas. Même sa maison on peut pas rentrer, sa voiture on peut pas toucher, on peut rien faire. Même ses habits on peut pas toucher. Pourquoi? Parce que il est sous la protection. My God. Il y a des gens qui sont protégés. Et Job savait comment attirer la protection sur sa maison et sur sa famille. C'est un problème pour Satan. Parce que Satan voulait exercer son ministère dans la vie de Job. Mais je vais vous dire quelque chose qu'il faut que vous reteniez. C'est que Satan a un droit de crible. Il peut réclamer qui il veut. Qu'il veut. Il a le droit, c'est-à-dire que il a le droit de venir te secouer. Il faut, il a ce droit-là, c'est un droit qu'il a jusqu'à ce qu'on l'enchaîne et qu'on le jette dans la géhenne. Mais tant que le ciel existe, Satan a le droit de cribler qui il veut. Mais il doit demander la permission à Dieu d'abord. C'est pour ça que Jésus une fois a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour pouvoir te cribler. Et il dit pas j'ai refusé. Il dit mais moi j'ai prié pour toi afin qu'après tu vois non. Parce que moi, je te connais, Pierre. Tu es impulsif. Tu n'es pas trop stable. Tu aimes bien voir les choses et ce genre. Je sais que tu vas tomber. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que après que tu sois tombé, tu puisses te relever et que tu puisses aider les autres aussi à se relever. Parce que Jésus ne peut pas empêcher Satan de pouvoir cribler. Mais tu peux avoir la protection de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de puis la tempête. C'est-à-dire, la tempête, ça vient forcément. Mais quand la tempête vient, est-ce que ça vient trouver une maison qui est solidement ancrée sur le roc? Ou bien est-ce que ça vient sur une maison qui est bâtie sur du sable? Tu vois? Le problème de Job, c'est que sa maison était bâtie sur le sable, il ne savait pas. Puisque lui, il était intègre et droit. Il était le seul, il est le seul pilier qui a résisté. Tous les autres se sont effondrés parce que ses fils et ses filles n'étaient pas intègres et droits. Ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Tout ce qu'ils avaient, ils recevaient des choses que Job leur avait apportées. Est-ce que tu sais que ton fils peut prospérer à cause de toi? Amen. Il n'est pas chrétien, mais il va prospérer. Ta fille peut prospérer à cause de toi. Tu vois? C'est lui qui a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur la troisième, voire la quatrième génération, mais qui bénit jusqu'à la quatrième, millième. Aujourd'hui, l'Europe, pourquoi l'Europe, l'Amérique est bénie aujourd'hui? C'est à cause de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents qui ont été des missionnaires. C'est eux qui ont envoyé l'évangile en Afrique et dans le monde entier. Pendant des années, ce sont des nations où il y a eu beaucoup de personnes. C'est, en réalité, si vous remontez l'arbre généalogique des familles européennes et américaines, dans 3-4 générations, vous allez trouver des chrétiens. Alors que nous, si on remonte... Si on remonte l'arbre généalogique de 3-4 générations, on va trouver des gens qui avaient des os dans la narine qui mangeaient leurs camarades. C'est terrible. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, nous courions vers le Seigneur. Parce que nous sommes en fait la dernière génération à payer le prix de la malédiction quand nous avons en face de nous une génération qui est en train de recevoir le fruit de la bénédiction. Des promesses. C'est eux qui ont imprimé les Bibles, les premières Bibles. Ils ont distribué des Bibles, ils ont envoyé des missionnaires. Dans chaque famille, il y avait un religieux, donc quelqu'un qui était consacré au service de Dieu en permanence. Et il était aux frais de sa famille. Ils sont nombreux. C'est vrai, avoir enrichi des églises, ils n'ont pas forcément aujourd'hui qui ne détiennent pas la vérité, mais ils ont quand même fait des sacrifices pour voir l'évangile avancer. Amen. Et leurs familles sont en train d'en profiter aujourd'hui. L'Europe et l'Occident en profitent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, ils ont reçu l'évangile et ils ont permis aux autres de le recevoir également. Amen. Donc il dit, mais ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. L'œuvre de ses mains bénit, ses troupeaux couvrent le pays. Mais pourquoi? Parce que Job, bien qu'il y a des choses dans la vie de Job qu'il faut retenir, c'est sa constance. Il avait l'habitude de sanctifier ses enfants. Il avait l'habitude de sanctifier sa maison. Amen. Et donc nous également, on doit s'inscrire dans cette manière de vivre, dans cette manière de prier. Chaque jour que Dieu fait, il faut se sanctifier. Il faut sanctifier ses enfants, il faut sanctifier sa maison. Chaque jour, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois par mois. On le fait tous les matins. Tu dois intégrer ça dans ton mode de prière. Amen. Tu dois intégrer ça dans ton mode de prière. Parce que, si tu veux, ça ferme l'accès à Satan. Ça ferme l'accès au diable. Le sang de Jésus, quand le diable vient, qu'il voit le sang, il peut rien faire. Quand il voit le sang, il peut pas. Quand il voit le sang de Jésus, il ne peut pas intervenir. Il est obligé de continuer son chemin. Pour qu'il puisse avoir accès à toi, il faut qu'il aille voir Dieu lui-même en personne pour demander l'autorisation. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a tellement d'hommes maintenant sur la terre que, avant qu'il arrive à contourner la protection de Dieu, ça sera compliqué. Tu vois? Mais donc, pourquoi le sang? On l'a vu dimanche, on a parlé, on a dit pourquoi le sang? Parce que le sang a la vie, a la vie. Amen. C'est pas trop à cause du sang, mais c'est à cause de la vie qui se trouve dans le sang. Amen. Et ce sang-là a cinq particularités majeures que je veux te communiquer aujourd'hui pour que lorsque tu pries, tu puisses faire ces confessions-là. Amen. La première confession, c'est que nous sommes rachetés des mains de l'ennemi par le sang de Jésus. Donc, tu confesses, je suis racheté des mains de l'ennemi par le sang de Jésus. Déjà à ce stade-là, quand tu dis je suis racheté, tu es en train d'établir une base spirituelle fondamentale. Parce que tu peux être libre en tant qu'esclave, mais si tu ne le sais pas, ça ne change rien à ta condition. Est-ce que tu comprends? Un esclave affranchi devait toujours se promener avec sa lettre qui prouvait qu'il était affranchi. Tu vas dire oui, mais aujourd'hui on n'a plus ça. Mais si, toujours. Quelle est ta lettre d'affranchissement qui dit que tu es un homme libre? C'est ta carte d'identité. La première des choses qu'on te retire, quand tu es en garde à vue ou bien quand on veut t'incarcérer, c'est quoi? Si un policier te trouve et qu'il te demande tes papiers et que tu n'as pas ta carte d'identité, il fait quoi? Tu vois pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, le fait de dire à Satan, de lui présenter ta carte, c'est ta carte ça. Le sang de Jésus, tu dis, écoute, regarde le sang. Je suis affranchi. J'ai été racheté. Amen. Déjà, ça te met dans une autre position vis-à-vis de l'ennemi. Est-ce que tu me suis? Imagine que tu as un problème avec quelqu'un. Et c'est arrivé à certaines personnes. On leur a volé de l'argent, mais on les a escroqués. Mais ils n'ont pas de titre de séjour. tu peux pas porter plainte. Si dans l'énervement, tu as appelé quand même la police et que les policiers arrivent. C'est arrivé à certaines personnes. La première chose qu'on fait, c'est vérification d'identité. Monsieur, vous avez vos papiers? Ah, c'est toi qui as appelé la police. Tu as raison. C'est toi qu'on a volé. Mais, tu as un problème. Parce que, c'est vrai que, vis-à-vis de la police, bon, ils vont quand même essayer de t'écouter pour savoir ce qui t'est arrivé. Mais, sur place, il y a les services d'immigration qui vont te poser des questions. Tu comprends? Donc, tu es dans ton droit, mais tu as peur quand même. Tu es dans ton droit, mais tu ne peux pas crier. Tu vois? Tu es dans ton droit, mais tu ne peux pas le revendiquer. Tu comprends? C'est pour ça que, je sais pas, mais en tout cas, dès que les policiers ont affaire à des gens de couleur, la première chose qu'ils demandent, c'est Au fait, mais vous avez vos papiers? Parce que... Avant de commencer, vous savez, même si toi, c'est toi, tu as le droit de lui parler. Je sais pas si tu comprends. D'ailleurs, même, est-ce que... D'ailleurs, tu as tes papiers? Parce qu'il sait que ceux qui n'ont pas le... Dès qu'il pose cette question-là, ceux qui n'ont pas, tout de suite, même si il criait tout ça, tout de suite, il commence à devenir petit. Donc, c'est le rapport de force avec les forces des ténèbres. Tu vois? C'est, est-ce que tu es racheté? Est-ce que tu comprends? Si tu sais pas, tu dis, ah, vraiment... Donc, c'est important pour toi de prendre les devants maintenant. C'est-à-dire que quand tu viens devant l'ennemi, tu dois te présenter. Alléluia. Le sang de Jésus. Regarde dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 19. Je vais vous donner les 5 clés. Je crois que je vais vous donner une clé aujourd'hui. Non, faut pas tout donner. Vous respectez plus les réunions. On fait les veillées. Ça se promène. Donc, je préfère, mais on va donner un peu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 19. Il dit, je vais lire à partir du verset 13. Aussi, c'est quand même assez intéressant, important. Donc, c'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ok, donc quand Jésus va apparaître, il y a une grâce spéciale qui va nous être apportée. Oh, gloire à Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc quand vous étiez dans l'ignorance, il y a des convoitises que vous aviez, on dit laissez ça de côté. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Donc Dieu veut qu'on soit saint. Je vous ai dit la dernière fois, c'est le péché qui empêche Dieu de nous bénir. Le péché empêche Dieu de nous entendre. Il empêche Dieu de nous toucher. C'est pour ça qu'il a donné le sang, pour résoudre le problème du péché. Parce que tant qu'il y a le péché, tu peux te séduire avec toutes sortes de discussions. Tant que tu n'invoques pas le sang pour te nettoyer de ce péché, ta prière ne vole pas plus haut que le plafond de ta maison. Tu veux être un chrétien béni? Règle le problème du péché. C'est pas parce qu'on est en France. Ça n'a pas changé. Il dit au verset 17, donc, et si vous invoquez comme père, si vous invoquez comme père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, amen. Donc, vous invoquez comme père, qui? Dieu. Oh, Dieu, il est comment? Il juge selon l'œuvre de chacun. C'est chaque individu est responsable de ses actes et de ses agissements. Il ne fait pas de favoritisme. Comme j'ai dit, il ne fait pas de favoritisme, mais il fait des faveurs. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Monsieur, c'est un séjour sur la terre. Tu vois? Pendant le temps de votre, il y a d'autres versions qui disent pendant le temps de votre pèlerinage, hein, n'est-ce pas? Ouais, on est en pèlerinage, on est venu sur la terre. En réalité, on n'est pas du monde, on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Amen. Donc pendant ce temps-là, il faut vivre en conformité, il faut se conduire avec crainte. Amen. Vous savez donc que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, dis à ton voisin, purifie ton âme. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qui nous purifie? Le sang de Jésus. Qu'est-ce qui nous régénère? La parole de Dieu. My God, on vient de lire ça. C'est deux choses fondamentales. C'est pour ça que la Bible parle de trois choses importantes. L'esprit, des trois témoins. L'esprit, l'eau et le sang. L'eau, c'est la parole. Amen. Et maintenant, on voit la fonction de deux de ces choses. Le sang fait quoi? Nous purifie. Et la parole nous régénère. Alléluia. Important, fondamental. C'est pour cela que il est important de te purifier, de faire appel au sang. Amen. De faire appel au sang. Parce que c'est le sang précieux de Christ, donc verset 19, mais par le sang, qui dit que nous avons été rachetés. Pas par des choses périssables. Lorsque Christ nous a rachetés, il nous a pas rachetés avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec des euros, ni des dollars. Parce que ce sont des choses périssables. Aujourd'hui, ça vaut telle somme. Demain, ça vaut une autre somme. Même l'or, qu'on qualifie d'être de matière refuge et stable par excellence, fluctue. Hein? À un moment, l'or était à moins de 800 euros. Maintenant, c'est à plus de 800 euros. Ça avoisine maintenant les 1000 euros. Le lingot d'or, ça bouge. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Ils achètent l'or à 700 euros. Et quand ça vaut 1000 euros, il vend. Ça fait qu'il gagne combien? 300 euros. Est-ce qu'il a l'eau au travail? Non. Est-ce qu'il a transpiré? Non. Il a juste passé des ordres. Et pendant des années, les gens se sont gavés justement sur les fluctuations. Et le problème, c'est qu'ils ont commencé à mettre leur foi dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Tout s'est mélangé. Quand tu achètes l'or à 700 euros, ça descend à 600, tu vends à 600, au moment où tu ça remonte à 1000. Tous les traders de la terre ont commencé à aller à Londres. Les églises sont remplies. Allez aux États-Unis. Parce qu'ils ont compris que même les choses sur lesquelles ils s'appuyaient sont instables. Donc le Seigneur ne pouvait pas utiliser l'or ou l'argent pour nous racheter. Ou le pétrole. Ta vie vaut plus que ça. C'est-à-dire que la seule manière pour que Satan puisse te relâcher, il fallait que une vie soit relâchée. C'est ça la force. C'est une vie pour une vie. Est-ce que tu comprends? Une vie pour une vie. Donc pour ne pas qu'on discute. On a mené une vie meilleure que la tienne. Une vie sans reproche. Une vie sans... Sinon, on allait évaluer. On dit, mais... La vie qu'on emmène là, c'est pas, ça ne vaut pas cette vie-là. Tu vois? C'est pour ça qu'on ne pourrait pas prendre n'importe qui. Il y a des peuples qui ont déjà fait des sacrifices humains. Il y a des peuples qui l'ont fait. Ils ont instauré ça. Ils faisaient des sacrifices humains parce qu'ils croyaient effectivement, lorsque il y avait des malédictions sur la terre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient capturer des gens et puis ils les sacrifiaient pour calmer les divinités parce qu'ils se disaient que les divinités réclamaient des vies. Et comme ils ne voulaient pas donner leur propre vie, ils donnaient la vie d'autres personnes. Mais le problème, c'est quand tu donnes la vie de quelqu'un, est-ce que cette vie est forcément meilleure que la tienne? On a parlé du sang qui crie, du sang qui parle. On dit le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus crie encore plus fort. Et c'est un sang qui a une particularité. C'est le sang, la Bible dit, tel un agneau parfait et sans tache. parfait. C'est-à-dire, il est un homme parfait. Il n'y a pas une meilleure qualité de sang que le sang de Jésus. Et ce sang, donc, a la particularité de racheter chacun d'entre nous. Alléluia. On met ta vie sur la table, on met le sang de Jésus racheté. On met le sang de Jésus racheté. C'est pour ça que tu dois te promener avec cette lettre de rachat là, qui t'a été fournie. Quand on a affranchi un esclave, on lui donne ces lettres d'affranchissement. Comme l'histoire que je vous ai racontée dimanche. Du jeune esclave qui a été emmené sur un marché esclavagiste. Et il y a un monsieur qui passait par là. Il a vu l'esclave. Il a été pris tout de suite de compassion pour lui. Il a dit, il faut que je le libère. On était en train de le traiter comme n'importe quoi. On dit, allez, vous le voyez, ouvre la bouche. Vous voyez ses dents, elles sont toutes en place. Des dents alignées. On l'attrape à les biceps là. C'est un étalon. Regardez les muscles qu'il a un peu bien travaillé. En plus de ça, comme du bétail. Et l'homme, quand il a vu ça, il a dit, non, il faut que je rachète cet homme-là. Et donc, il est allé, il a payé le prix qu'il fallait. Il y a eu des enchères. Toi, tu donnes combien? Toi, tu donnes combien? Tu donnes combien? Moi, je donne du sang de poulet. Non, moi, je donne du sang de bœuf. Non, moi, je donne du sang d'agneau. Non, moi, je donne du sang de mouton. Moi, je donne du sang de tigre. Moi, je donne du sang de lion. Il dit, moi, je donne mon propre sang. Oh my God. Il n'y a pas une plus grande marque d'amour. Sa vie. Il n'a pas pris la vie d'un mouton. C'est facile. Mais il a donné sa vie. Le mouton même, il n'a rien fait dedans. Et il rachète l'homme. Mais au moment où il le rachète, l'homme ne comprend pas. Il a l'impression que non, on va le prendre, on va aller le frapper, on va l'emmener dans une ferme quelque part pour travailler. Donc, il essaie de se débattre et tout. Mais celui qui l'a racheté reste serein parce qu'il sait ce qu'il va lui offrir. Il va lui offrir quoi? La liberté. Quelle liberté? La liberté de choisir. Aujourd'hui, tu as la liberté de choisir. De choisir de vivre pour Dieu ou de ne pas vivre pour Dieu. Mais tu as la liberté. Les gens du monde n'ont pas la liberté de choisir. Ils disent qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Quel que soit ce qu'ils font, ils servent le diable. Même quand ils vont prendre de leur argent pour donner aux malnutris, pour offrir des logis, ils essaient de calmer leur conscience. Mais le don qu'ils font là, il y a des gens qui doivent donner, ils s'appellent les enfoirés. C'est pour faire des enfoirés, quand même. L'œuvre est bien. Les gens qui ont faim vont dire que on m'a donné à manger. Mais donner à manger à quelqu'un, c'est ne pas sauver la personne. C'est limiter la vie au manger ou au boire. Or, le Seigneur a dit, la vie, ce n'est pas seulement le manger, le boire, car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, des fois, quand tu donnes à manger à quelqu'un même, tu es en train, des fois, de le maintenir dans un état d'assistana, de dépendance et d'esclavage. Et si tu t'appelles enfoiré, c'est normal. Parce que c'est vraiment le ministère que tu es en train d'exercer. Tu es en train de tromper la personne sur la vraie nature de ses problèmes. il fait les choses, c'est-à-dire qu'il travaille. Maintenant, le diable, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le diable ne se cache plus. Parce qu'il sait qu'il y a trop de personnes qui sont aveuglées pour voir et pour comprendre. Donc maintenant, c'est en plein jour. Et toi, tu vois, mais tu comprends pas. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu vois? Non, tu vois, mais tu comprends pas. Pourquoi ils se font appeler les enfoirés? Aïe, 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 aïe. Tu as besoin d'être affranchi, d'être libéré. Et tu as été affranchi, tu as été libéré parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. C'est pour ça que quand tu dois t'élever spirituellement, dans la prière, dans le combat spirituel, dans la journée, tu veux prendre ta position, tu dois invoquer le sang de l'agneau et dire à Satan, dire à la face de toutes les entités, les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Pourquoi? Parce que par ce sang-là, je suis affranchi. Je suis libéré. Alléluia. Je suis libéré. J'ai le droit de prendre autorité. Je vais vous parler des autres. Hein. Il y a 5 clés fondamentales. On en parlera la prochaine fois. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Le temps est avancé. Si on veut continuer, une seule clé déjà, il est déjà 21h. Donc il faut qu'on tape à peu près une heure par clé. À moins que vous voulez que je survole. Hein? Il faut entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, quand tu vas dire, tu vois, ta prière va revêtir une certaine puissance. Parce que tu vas commencer à prier. Quand tu vas commencer à prier, déjà, tu vas dire, je suis racheté des mains de l'ennemi par le sang de Jésus. Ça libère en même temps l'atmosphère. Ça te met dans une position d'autorité et de domination au lieu d'être dans une position d'humiliation et de peur. Et de soumission vis-à-vis de l'ennemi. Tu dois prendre d'abord ta position. Quand on combat d'une position. Et cette position, c'est une position élevée. C'est une position, tu es dans ton droit. Moi, la première fois que j'ai vu des policiers ici, ils m'ont demandé, au fait, vous avez vos papiers. J'étais même pressé même d'aller chercher mes papiers. Je suis allé prendre ma carte d'identité française aussi. Et je suis venu, j'ai dit, voilà ma carte d'identité. Ils ont pris, ils ont regardé, ok, c'est bien. Vous dites, bon, donnez ma carte maintenant. Mais vous dites, amen. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais ça m'a redonné même de la force. J'ai dit, et puis ils me disent, non, on a des plaintes et tout, vous faites du bruit chez vous. Je dis, oui, mais est-ce qu'on peut entrer? Je dis, non. Ils sont arrêtés là. J'ai d'ailleurs même quitté de moi. Tu as la force maintenant. Parce que tu as le droit. Tu comprends? Non, le sang de Jésus te confère des droits. Non, le premier, tu es affranchi. Tu es libéré. Alléluia. Tu es libre. Spirituellement parlant, tu peux te déplacer comme tu veux. Tu peux prendre autorité sur Satan, sur ces choses. Tu peux prendre autorité, prier pour des gens qui ne sont pas convertis. Mais tu parles avec autorité. Pourquoi? Parce que tu as été racheté. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas déclarer ta liberté. Et tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans cette liberté totale. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu ne seras plus intimidé. Je refuse l'intimidation de l'ennemi. Je refuse la peur de l'ennemi. Tu vois? L'intimidation. Le diable veut t'intimider. Et c'est ça le rapport. On veut t'intimider. Pour que tu rentres dans ta coquille. Non, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse l'intimidation. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. J'ai été libéré par le sang de Jésus. Je suis libre. Et je suis racheté. Je n'ai pas été racheté par de l'or, ni par de l'argent. Je n'ai pas été racheté par une substance périssable. Mais par le précieux sang, par le précieux sang, par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Tu es racheté par le précieux sang de Jésus. Ce sang m'a lavé, ce sang m'a nettoyé, ce sang m'a arraché les chaînes, a brisé les chaînes. My God. A brisé les chaînes. Et m'a complètement affranchi. M'a donné une position de domination. Une position d'autorité. Je n'aurai plus peur. Je ne serai plus intimidé. Mais je marcherai tel un homme libre. Affranchi, racheté et fier d'être appelé fils de l'Éternel. Je déclare que le sang de Jésus coule sur ma vie et sur la vie de mes proches. Et que ce sang leur assure une protection, une couverture qui ne sera jamais violée par l'ennemi. Oh my God. C'est ce que le Seigneur me met à cœur maintenant. Tout de suite là. Il me dit, tu vois, Satan a pu lever la protection sur les enfants de Job parce que le sang que Job appliquait était le sang des animaux. C'était le sang des agneaux. Donc il a pu lever cette protection. Il dit, mais si tu appliques le sang de Jésus, cette protection ne pourra jamais être levée par Satan. Oh my God. Elle ne pourra jamais être levée par Satan. Ce n'est pas la même qualité de sang. Ce n'est pas les mêmes choses. Nous ne marchons pas selon les mêmes dispositions. Nous ne marchons pas selon la même dispensation. Alléluia. Et le sang de l'agneau, le sang de Jésus, nous assure une protection encore plus solide, encore plus forte que celle qu'a apportée le sang des animaux dans la famille de Job. Merci Seigneur pour la protection sur ma famille. Merci Seigneur pour la protection sur ma maison. Merci Seigneur pour la protection sur mes affaires. Merci Seigneur pour la protection sur mes proches, sur mes enfants. Merci Seigneur pour la protection, Seigneur. Pour la protection, pour la protection, pour la protection du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Alléluia. Merci Jésus pour cette protection. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit amen, 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 amen.
Nous avons le plaisir de vous présenter ce message qui vous bénira certainement. Écoutez et téléchargez notre message sur notre site www.jemkaku.org. Que Dieu vous bénisse.
Parle-lui encore et dis-lui combien il est bon pour toi, combien tu l'aimes. Dis-lui merci pour les sacrifices qu'il a accomplis pour toi et pour le chemin qu'il a tracé, qui te donne accès à la présence de Dieu. S'il n'avait pas fait ce sacrifice, il t'aurait été impossible d'entrer dans la présence de ton Dieu. Aujourd'hui, t'approcher de Dieu est une grâce, est un privilège. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est une grâce, c'est un privilège. Alléluia. C'est lui qui a tracé le chemin, c'est lui qui a tracé la route. C'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui a payé le prix qu'il fallait. My God. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de notre Père. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de notre Créateur, de ce Dieu puissant. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si ce Dieu puissant, si ce Dieu fort veut notre avancée, veut notre percée, veut notre progression, qui peut être contre cela? Nous voulons aimer le Créateur. Nous voulons donner notre vie au Créateur. Nous voulons que notre vie le serve. Nous voulons que chaque partie de notre corps le serve. Et plus jamais, nous n'admettrons qu'une puissance autre que celle de celui du Père puisse utiliser nos membres, puisse utiliser notre bouche, puisse utiliser notre corps pour faire quoi que ce soit. Seigneur, nous voulons être consacrés à 1000%, Seigneur. Et nous renonçons à tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons que ces choses sont à bannir de notre vie et nous vous ordonnons de vous éloigner de nous au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce au milieu de nous encore. Élève cette assemblée, Seigneur, dans ta présence, Père. Élève cette assemblée dans ta présence. Élève chacun d'entre nous dans ta présence. Et que personne ne vienne alourdir l'atmosphère dans le nom de Jésus. Mais que, Seigneur, le sang de Jésus coule pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Agis. Agis, Père. 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 Agis, Seigneur. Souffle dans ce lieu. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Un souffle de restauration. Un souffle de restauration. Un souffle qui va raviver nos forces et notre énergie, Seigneur. Un souffle qui va encore nous rapprocher de toi, Seigneur. De la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Transporte-nous dans ta présence. Et que ton feu, Seigneur, soit notre partage au nom de Jésus. My God, que ce feu consume, que ce feu brûle, que ce feu, Seigneur, mon Dieu, consume tout ce qui est étranger à toi, Seigneur. Tout ce qui a pu s'infiltrer, tout ce qui a pu entrer, tout ce qui a pu venir dans notre vie qui est étranger à toi, Seigneur. Que ces choses soient dévoilées. Et éjecté de notre vie. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton amour. Et nous te prions, Seigneur, mon Dieu, de bénir ce moment de prière. De permettre, Éternel, que nous puissions encore faire des dégâts dans le monde spirituel. Que nous puissions anéantir les œuvres de l'ennemi. Et construire, bâtir. Les choses qui nous permettront d'avancer. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prendre place, on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons donc entamer la deuxième séance de prière pratique sur le sang de Jésus. Amen. Dimanche passé, je disais que on allait se retrouver pour avancer sur ce qu'on a dit et on m'a rappelé, on dit, pasteur, il reste encore 4 autres choses que le sang de Jésus peut faire pour nous accomplir dans la prière. Amen. Mardi passé, on en a parlé. Mardi passé, on en a parlé. Et j'ai dit que j'allais vous donner les autres clés, les autres choses que le sang de Jésus. Mais vous savez, au fur et à mesure qu'on avance dans l'enseignement de la parole sur le sang de Jésus, normalement vous auriez dû les identifier. Amen. Vous auriez dû les identifier. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la première chose que le sang de Jésus faisait au niveau de la prière? On avait dit quoi? Que le sang de Jésus nous a rachetés des mains de l'ennemi. Amen. Amen. Proclamez donc notre liberté. Le prix qui devait être payé a été payé. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et l'ennemi connaît la justice de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu lui-même est obligé des fois de s'acquitter de certaines obligations pour avoir le droit d'intervenir. Amen. Et donc, c'est la raison pour laquelle, il a été obligé de payer la rançon. Parce que si la rançon n'était pas payée par le sang de Jésus qui a été versé, à chaque fois que il allait devoir intervenir dans notre vie, à chaque fois qu'il allait devoir nous sortir de certaines situations, l'ennemi allait dire, non, tu n'as pas le droit. Amen. Parce que celui-là m'appartient. Parce que celui-là est mon esclave. Parce que celui-là s'est vendu à moi. Amen. Et donc, il était question de racheter, de nous racheter. Et Christ a payé le prix, donc, qui nous a rachetés. Amen. Ensuite, déjà à ce stade-là, vous pouvez voir que le sang de Jésus est capital pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien, dans notre vie de prière. Parce que quelqu'un qui n'est pas racheté, quelqu'un qui est encore sous l'emprise de son maître, amen. Quelqu'un qui n'est pas racheté, amen. Quelqu'un qui est encore esclave, quelqu'un qui est encore sous la domination donc de l'ennemi, ne peut pas combattre. Amen. Il ne peut pas combattre, il peut pas revendiquer ses droits, il peut pratiquement rien faire. D'où la nécessité dans la prière de toujours savoir une chose, c'est que nous, quand nous prions, on prie à partir d'une position. Amen. On prie à partir d'une position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on doit être conscient de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Et puis de nous placer à notre position, qui est une position d'autorité, qui est une position de domination. Amen. Dès le moment où tu es conscient de ta position, tu vas parler différemment que si tu penses que tu es un esclave ou bien si tu penses que tu n'es pas digne. Moi, j'entends souvent des prières, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Dès le moment où tu commences à dire ça, automatiquement, mon frère, tu quittes ta position.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.